Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse, La Voix de l'Est et Le Devoir. Au programme, peut-on espérer la fin des paradis fiscaux en 2023? L'année NPD? Et si on demandait aux patients ce qu'ils désirent? Et le paradoxe d'étudier en psychologie? Bonne écoute!
Peut-on espérer la fin des paradis fiscaux en 2023? Un texte d'opinion de Brigitte Alpin paru le 16 décembre 2022 dans la presse. Brigitte Alpin est fiscaliste, professeure de fiscalité à l'Université du Québec en Outaouais, autrice, cofondatrice de Tax Coop et cinéaste. Après plus d'un siècle de paradis fiscaux sur la planète, peut-on réellement espérer en voir la fin en 2023? La question est plus importante que jamais alors que les citoyens, fatigués par la pandémie, doivent maintenant faire face à une crise environnementale qui s'accélère, à une vague inflationniste et à une possible récession qui coupe littéralement les jambes à plusieurs d'entre eux. Dans « Les investissements directs étrangers sous la loupe », publié par le gouvernement canadien, on peut lire « Fait intéressant, un certain nombre d'économies des Caraïbes figurent parmi les 10 principales destinations de l'investissement direct des Canadiens à l'étranger, les Bermudes, les îles Caïmans et la Barbade. Non, ce n'est pas qu'un fait intéressant, c'est aussi un fait choquant et décourageant. Ces trois pays figurent parmi les pires paradis fiscaux au monde et les Canadiens demandent qu'on règle ce problème depuis des années. Si l'on ajoute le Luxembourg à la liste, les investissements des Canadiens dans ces pays totalisaient 250 milliards de dollars en 2021. 20 ans plus tôt, quand je commençais la rédaction de « Ces riches qui ne paient pas d'impôts » et que je me scandalisais publiquement face à la question des paradis fiscaux, ce chiffre était de 50 milliards. Or, malgré la puissance de ce phénomène qui prend de l'ampleur depuis 100 ans, il est permis d'espérer que 2023 pourrait marquer la fin des paradis fiscaux, du moins en bonne partie. Cet espoir vient du fait qu'il est prévu que les multinationales seront soumises à un impôt minimum mondial au taux de 15% dès 2023. Depuis la fin du secret bancaire, rappelons qu'il est devenu pratiquement impossible pour les citoyens de faire de l'évasion fiscale grâce aux paradis fiscaux sans se faire repérer par les autorités fiscales. Or, pour viser les multinationales, il manquait une pièce maîtresse et c'est l'impôt minimum mondial, IMM, en empêchant les multinationales, qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, d'abaisser leur taux d'imposition effectif en deçà de 15%, notamment par le recours aux paradis fiscaux. L'IMM a été adopté en octobre 2021 par près de 140 pays et administrations, représentant 90% du PIB mondial total. Or, l'histoire abonde en décisions et accords que les pays finissent par ne jamais respecter. L'accord de Paris en est probablement le plus récent exemple connu. Alors, où en est-on avec la mise en place de l'IMM? De nombreux pays, comme le Canada, Singapour et Jersey, ont lancé des consultations sur la manière d'implanter la mesure. Difficile d'unanimité. Du côté de l'Union européenne, les États membres ont eu beaucoup de mal à obtenir l'unanimité nécessaire sur cette directive. Durant la dernière année, la Pologne et l'Estonie s'opposaient à la mesure. Puis la Hongrie, qui avait pourtant déjà donné son accord en 2021, bloquait l'entente depuis juin 2022 en invoquant l'impact économique de la guerre en Ukraine. Or, après des mois d'intenses négociations, les États membres de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur l'introduction de l'IMM dans le droit fiscal d'ici la fin 2023, pour une entrée en vigueur dès 2024. Du côté des États-Unis, un impôt minimum de 15 % a effectivement été adopté à l'été 2022, mais il s'agit d'un impôt distinct et non conforme avec l'IMM. Si les deux impôts sont en apparence similaires, en réalité, il y a des différences importantes. Par exemple, cet impôt minimum américain s'applique au revenu global de la multinationale, contrairement aux revenus calculés par pays d'opération tel que le préconise l'OCDE, ce qui fait craindre que cela n'empêchera pas l'utilisation abusive des paradis fiscaux. Il est difficile d'imaginer l'IMM en pratique sans que les États-Unis soient de la partie. Son implantation mondiale sera donc peut-être reportée de quelques mois pour permettre la mise en place d'une mesure coordonnée avec les États-Unis et pour donner le temps à chacun des pays de l'inclure à sa fiscalité. Mais les difficultés économiques et possiblement sociales des prochains mois pourraient aussi réduire le niveau de tolérance des citoyens face aux paradis fiscaux et placer les décideurs politiques face à la nécessité d'agir rapidement. Bien que l'IMM soit la plus importante mesure jamais instaurée au niveau international dans la lutte contre les paradis fiscaux, elle n'y mettra pas un point final, notamment parce qu'elle comporte une clause spéciale nommée « exclusion de substance », qui permet aux entreprises de payer un taux d'imposition inférieur à 15 % dans les pays où elles ont de nombreux employés ou des actifs corporels. De plus, elle ne vise pas les plus petites multinationales. Également, un tiers des pays, représentant plus de 2 milliards de personnes, n'ont toujours pas accepté de se joindre à l'initiative. Le 20 avril 1961, le président John F. Kennedy recommandait au Congrès américain l'élimination du « projet de paradis fiscal » partout sur la planète. Plus de 60 ans plus tard, espérons que nous entrons dans nos années chanceuses et réussirons enfin à endiguer ce fléau. C'était « Peut-on espérer la fin des paradis fiscaux en 2023 ?» Un texte d'opinion de Brigitte Alpin paru le 16 décembre 2022 dans la presse.
L'année NPD. Une chronique d'Hélène Buzetti parue le 23 décembre 2022 dans La Voix de l'Est. On dit souvent qu'en politique, une année est une éternité et 2022 aura permis une fois de plus de confirmer l'adage. Deux des cinq partis fédéraux se sont donné un nouveau chef. Un soulèvement populaire a nécessité l'invocation, pour la première fois de l'histoire du Canada, de la loi sur les mesures d'urgence et la tenue d'une enquête publique subséquente. Mais c'est avant tout l'entente conclue par Justin Trudeau avec Jagmeet Singh, lui permettant d'espérer gouverner jusqu'en 2025, qui aura été la plus déterminante. Elle aura confirmé la gouvernance de gauche des libéraux fédéraux et elle annonce une nouvelle année placée sous le même signe. Cette entente a d'abord obligé Ottawa à instaurer une prestation dentaire pour chaque enfant de moins de 12 ans n'étant pas couvert par une assurance privée. Les chèques de 1 300 $, ou moins le montant étant modulé selon le revenu familial, se veulent un programme de transition devant être remplacé d'ici la fin de 2023 par une véritable assurance dentaire pan-canadienne. L'initiative s'est méritée bien des critiques. Les montants versés pourront dépasser les frais déboursés par les parents, les vérifications seront minimales, les provinces offrant déjà une couverture dentaire n'obtiendront pas leur part du gâteau, etc. Mais voilà, le vite est l'ennemi du bien. C'était le prix à payer pour satisfaire un partenaire de coalition impatient de prouver qu'il n'avait pas bradé son âme. Reste à voir si Ottawa réussira à déployer une vraie assurance malgré la résistance des provinces. Les libéraux ont aussi fait plaisir au NPD en instaurant des impôts supplémentaires pour les banques et les compagnies d'assurance. Une ponction non récurrente de 15 % sur les profits de plus d'un milliard de dollars et une hausse permanente du taux d'imposition de 1,5 point de pourcentage sur ceux dépassant 100 millions. Ces promesses avaient été faites par les libéraux en 2021 pour voler au NPD une partie de son électorat. Elles ont finalement servi à se gagner l'appui des élus néo-démocrates. Le résultat est, quand on y pense, le même. Les libéraux ont aussi fait retirer du code criminel certaines peines minimales. Ces peines avaient été maintes fois dénoncées et parfois invalidées par les tribunaux parce qu'elles privent les juges de la latitude pour adapter la peine aux circonstances particulières de chaque crime. Les libéraux ont toutefois moussé cette initiative législative comme un moyen de combattre le racisme systémique et de réduire la surreprésentation des Autochtones et des Noirs dans les prisons. Certes, il s'agit d'une marotte libérale, mais elle n'est pas pour déplaire à Jack Mitzing. Ce dernier n'avait-il pas refusé qu'on traque les fraudeurs de la PCU au motif que cela affecterait surtout les personnes racisées? L'année 2023 sera à peu près de la même eau. Les libéraux se sont engagés dans leur entente avec le NPD à faire voter une loi interdisant le recours aux briseurs de grève. Ils se sont aussi engagés à présenter une réforme de l'assurance-emploi. Ils sont attendus de pied ferme par les syndicats qui veulent rendre le système plus généreux et le milieu patronal qui craint de nouvelles charges financières. On peut aussi se demander si l'influence du NPD n'explique pas, du moins en partie, le retour du Parti libéral du Canada à une posture franchement centralisatrice en matière de santé après avoir donné aux provinces plus de latitude en début de mandat. Encore lundi, Justin Trudeau déclarait à la CBC « Cela ne sert à rien de mettre plus d'argent dans un système brisé. » Ellipse. « Un des seuls leviers que j'ai est de dire « Je ne vous donne pas cet argent sans condition. » Je vais pleinement participer au financement pourvu que de véritables améliorations soient apportées. » François Legault avait-il entendu ces paroles avant de déclarer au sortir de son tête-à-tête le lendemain qu'il était plus confiant qu'avant que l'impasse se dénoue? Des alliances nécessaires. La prochaine année forcera les libéraux à faire des compromis pour se rallier le NPD et ou le Bloc québécois et faire adopter certaines initiatives législatives leur tenant à cœur. Pensons d'abord au contrôle des armes à feu. En insérant, sans débat dans leur projet de loi C-21, une définition des armes d'assaut désormais interdite et une liste de celles-ci, les libéraux ont braqué tout le monde. Surtout quand on a découvert que certaines armes visées étaient utilisées par des chasseurs. L'opposition est venue non seulement des conservateurs, comme c'est toujours le cas en ces matières, mais aussi du NPD, du Bloc et même de quelques libéraux. Le député néo-écossais Cody Blois a en effet qualifié de problématique le changement proposé. Le député du Yukon, Brendan Hanley, a indiqué qu'il ne pourrait appuyer la loi telle que rédigée. Son voisin des territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a exigé plus de temps pour l'étudier. Les premiers ministres de ces deux territoires, dont un est libéral, ont aussi dénoncé C-21. Les libéraux devront aussi mettre de l'eau dans leur vin en matière de langues officielles. Les trois partis d'opposition entendent se liguer en février pour modifier le projet de loi C-13 afin d'obliger les entreprises sous juridiction fédérale opérant au Québec à respecter non pas la loi fédérale, mais la loi 101. Et tant pis pour Marc Garneau qui avait déclaré que ce serait une erreur de laisser le champ libre au Québec pour faire tout ce qu'il pourrait vouloir faire en matière de langue. Pas d'élection. Au risque de se répéter, 2023 ne sera pas une année électorale. Personne n'a l'intention de retourner aux urnes. Justin Trudeau a appris à ses dépens qu'il est inutile de remettre en jeu le pouvoir qu'on détient déjà. Jack Mitzing a réalisé qu'il détient en situation minoritaire plus de pouvoir qu'il n'en gagnera jamais à une élection. Quant à Pierre Poilievre, les sondages confirment qu'il a une popularité à redorer. Selon Angus Reid, ceux qui approuvent le chef conservateur, 33%, sont bien moins nombreux que ceux qui le désapprouvent, 53 %. À pareille date dans leur leadership respectif, Stephen Harper, Andrew Scheer et Erin O'Toole affichaient des différentiels respectifs de plus 26 %, 0 % et moins 6 %. C'est sans compter le Parti vert qui, maintenant qu'il s'est redonné Elizabeth May comme chef, doit renflouer ses coffres et rebâtir son organisation. Et le Bloc dans tout ça? Sur certains enjeux, il pourrait être un allié tout aussi valable que le NPD pour les libéraux minoritaires, mais ceux-ci n'ont pas pris l'habitude de varier leurs partenaires de gouvernance. Dans ce contexte, on peut penser que l'intention d'Yves François Blanchette de revenir à la charge en 2023 contre la monarchie fera chou blanc. Tout le monde restera donc tranquille en 2023. Mais avec la récession qu'on nous prédit, ce sera peut-être seulement le calme avant la tempête économique. C'était l'année NPD, une chronique d'Hélène Buzetti parue le 23 décembre 2022 dans La Voix de l'Est.
Ici, on demandait aux patients ce qu'ils désirent. Un texte d'opinion de Jean-Paul Brutus, chirurgien de la main, paru le 17 décembre 2022 dans la presse. Le système de santé décide de ce qui doit être fait pour les soins de la population. Qui soigne, quand et où, ce qui est prioritaire, quels délais sont tolérables et quel degré de saturation est acceptable dans les urgences du Québec. Cette approche parentale est pourtant obsolète. Une entreprise de services modernes doit s'intéresser aux besoins et désirs de sa clientèle. Ailleurs que dans la santé, aucune entreprise n'ose prétendre savoir mieux que ses clients ce qui est bon pour eux. Pourquoi, en plus de 20 ans de pratique médicale, n'ai-je jamais vu un sondage remis à des patients sur l'expérience ou la qualité des soins reçus dans un établissement? Pourquoi ne pas demander aux infirmières, aux préposés et aux médecins ce qu'ils observent sur le terrain et s'ils ont ce dont ils ont besoin pour soigner leurs patients adéquatement? Il m'est aujourd'hui impossible d'aller au restaurant, à l'hôtel, au spa ou chez le vétérinaire sans qu'on me demande si je suis satisfait de mon expérience et qu'on m'invite à faire part de mes suggestions et à recommander l'endroit à mes amis. L'industrie médicale privée fleurit au Québec parce que le système public défaille, mais aussi en raison de son approche autoritaire, autocratique et obsolète. L'entreprise privée s'intéresse aux besoins et aux désirs de ses clients et de ses employés, sans lesquels elle ne peut mener sa mission et cherche à les satisfaire. Pourquoi? Parce que sa survie en dépend. Les patients sont pourtant des clients peu exigeants, et si notre système de santé publique prenait la peine de les interroger, voici ce qu'ils apprendraient. L'expérience patient dépasse le fait de recevoir les soins médicaux nécessaires. La chaleur humaine, l'empathie et la compassion avec lesquelles ils sont délivrés comptent aussi. La facilité pour la prise de rendez-vous, virtuelle ou en personne, la communication, le renouvellement d'une prescription ou pour se faire soigner compte plus que jamais. Les patients veulent des professionnels et du personnel de soutien qui ont le temps de les écouter et de faire preuve de compassion. Avec une consultation de 7 minutes, c'est mission peu probable. Les générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Les boomers ont des besoins croissants parce qu'ils vieillissent et veulent rester actifs. Les membres de la génération X consomment des services de santé pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs parents vieillissants. Les milléniaux, Y, s'intéressent à optimiser eux-mêmes leur santé et à prévenir la maladie. Les post-milléniaux, Z, ont peu de besoins, mais exigent de la facilité d'accès en ligne. les patients veulent un système qui s'adapte à eux plutôt que l'inverse et ont soif de flexibilité et de commodité. Les consultations virtuelles, répandues depuis la pandémie, sont appréciées. Les horaires flexibles pour les soins non urgents sont également très appréciés, parce qu'après tout, ils doivent bien travailler, ces patients, non? Les patients veulent pouvoir choisir leurs soignants en fonction de leur réputation virtuelle et des expériences d'autres patients, disponibles en ligne. Des services qui ont été rendus disponibles par des entreprises comme RateMDS, Google ou Facebook, plutôt que par les institutions publiques ou les hôpitaux. La crédibilité d'aujourd'hui passe par le virtuel. Les patients d'aujourd'hui veulent être considérés comme des partenaires dans la gestion de leur santé. L'approche traditionnelle du docteur qui sait mieux n'écoute pas ou même se moque de l'opinion du patient, merci docteur Google, est révolue. Ils veulent être soignés de manière holistique, personne entière, et non comme une condition médicale à traiter. Cette approche fragmentée est chose du passé. Les patients veulent avoir accès à leurs dossiers, comme ils accèdent à leur compte bancaire en ligne et veulent que leurs informations puissent être partagées de manière confidentielle et sécuritaire avec leurs autres soignants. Les patients veulent de la transparence et des professionnels qui communiquent de manière compréhensible avant, pendant et après leur consultation ou leur traitement. Les patients veulent passer le temps dont ils ont besoin avec leur médecin et sentir que durant la durée de l'interaction, ils sont importants. Si le système de santé publique se montre incapable ou trop rigide pour s'adapter aux besoins et désirs des patients d'aujourd'hui, qui sont des consommateurs plus avisés que jamais, le privé continuera de le faire et à prendre de l'expansion au Québec. Pourquoi? Simplement parce qu'il pose les questions. Comment pouvons-nous vous aider? Comment a été votre expérience chez nous? N'est-il pas temps pour le système de santé de faire de même? C'était « Et si on demandait aux patients ce qu'ils désirent? » Un texte d'opinion de Jean-Paul Brutus paru le 17 décembre 2022 dans la presse.
Le paradoxe d'étudier en psychologie. Un texte de Julie Miette, paru le 24 décembre 2022 dans Le Devoir. L'autrice termine son baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. On parle de plus en plus de l'utilisation marginale des psychostimulants dans les milieux universitaires. Je trouve cela insultant de voir des professionnels de la santé et de l'éducation se dire choqués par la situation. La population en général n'a jamais crié à l'aide aussi fort en termes de santé mentale. Les enfants, les adolescents et les étudiants sont les boucs émissaires de cette pente ascendante vers des niveaux de performance complètement irréalistes. Les étudiants dont je suis doivent sans cesse se faire violence pour avoir une chance d'accéder à la profession désirée et ils n'ont que très peu d'outils. Nous devons nous battre pour étudier et aider notre communauté. Entre le coût de la vie qui augmente, les ressources en santé qui s'appauvrissent sans cesse et les troubles de santé mentale devenus monnaie courante. Qui, exactement, croit encore que les lacunes s'expliquent par un manque de discipline, un problème de concentration ou des traits de personnalité? On parle toujours d'argent. Les ressources en santé et en éducation sont rares et ne suffisent pas à la demande. Ce n'est plus une grande nouvelle, tout le monde le sait, tout le monde le sent. Le Québec est dans une situation où les professionnels de la santé et de l'éducation, qui est en burn-out, et ceux qui prennent la charge des absents sont simplement sur le chemin de l'épuisement à leur tour. Oui, une partie du problème est la pénurie de ressources, mais selon moi, la plus grande partie du problème est comment nous formons et utilisons ces ressources. Si nous sommes 300 étudiants motivés à intégrer le baccalauréat et seulement 12 à accéder au cycle supérieur, que faisons-nous des 288 étudiants hautement formés en intervention et en santé mentale? Surtout, quel objectif exact poursuivons-nous en accordant autant de valeur et de vertu à certains corps de métier et moins à d'autres. Cette hiérarchie complètement désuète me dérange. C'est cette structure d'enseignement qui ne se renouvelle pas qui oblige des personnes très compétentes, des personnes dévouées, à se limiter dans l'exploration de leurs compétences parce qu'elles n'ont pas les outils et les ressources pour performer. Ce sont les échelles, les exigences et la balance que nous accordons à la santé mentale et au bien-être qui doivent être revues. Ce n'est plus une question de politique. Cette question en est une de subsistance, c'est une question de société. Est-ce que je suis vraiment la seule à trouver complètement inadéquat le fait de voir des étudiants en psychologie sacrifier leur sommeil, leur santé mentale, leur santé physique, ceux-là même qui conseilleront à leurs patients de se respecter, d'adopter un cadre de vie moins stressant, etc. C'est ce qui arrive lorsque l'accès aux études supérieures devient de plus en plus élitiste, nous forçant à nous concentrer sur nos notes et non pas sur nos apprentissages. Tout ça en nous laissant si peu de place pour s'arrêter et prendre le temps d'être en paix, d'être serein, d'avoir une distance bénéfique avec notre processus, nos choix, nos intérêts. Quel type de professionnels serons-nous si ce qu'on nous enseigne ne réside qu'entre les pages du DSM et qu'on perd complètement la capacité de se connecter avec notre propre résilience et nos limites? Je terminerai en disant que je crois qu'il faut être déconnecté pour penser qu'en l'absence d'une équité des ressources dans notre société, il sera un jour possible de profiter pleinement des perles parmi nous qui n'ont pas eu les moyens d'accéder à une éducation dite « socialement acceptable ». Que ce soit les crises de panique, les épuisements, les comportements dangereux, les troubles alimentaires, la prise de substances, rendus là, nous nous sommes tous rendus malades. Pourquoi? Pour un papier qui prouve nos connaissances, même si, sans celui-ci, elles existent toujours. C'était « Le paradoxe d'étudier en psychologie », un texte de Julie Millette paru le 24 décembre 2022 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau, Gilbert Lepage et Justine Langevin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.